J'aimerais parler aux parents, père, maman. Est-ce que vous êtes prêts pour votre héritage envers vos enfants? Avez-vous déjà pensé à ça? Non? Il y a des jeunes là qui font déjà leur testament. Hein? C'est très bien. Là. C'est bien. On ne l'a pas fait encore, nous. Il faut qu'on le fasse. Est-ce que vous avez déjà vos actions quelque part, vos placements, vos maisons, tout ça, tout est arrangé? Pour le jour que vous allez mourir, puis vous allez tout laisser ça aux enfants? Non? Qu'en est-il de l'héritage? Un jour, un des messages qui m'a frappé beaucoup, c'était le début, ici à l'église, mon frère ici, en face de moi, mon frère Georges Guichard, a prêché sur l'héritage, l'importance de l'héritage qu'on laisse à nos enfants. Peut-être qu'il s'en rappelle, ça fait longtemps ça mon frère, 15 ans à peu près. L'héritage le plus important, le plus grand héritage qu'on peut laisser à nos enfants, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est vraiment notre exemple de foi, notre marche avec Dieu. C'est important l'argent. Et c'est important, si Dieu nous permet d'avoir une maison, si Dieu nous permet d'avoir quelques ici par là, mais le plus important, c'est vraiment laisser l'héritage à nos enfants de la parole de Dieu. Vraiment pouvoir partager à nos enfants notre foi et qu'eux, ils puissent aussi un jour transmettre ça à ses enfants. On va parler un peu du psaume 78. Mais pensons à ça, papa, maman, pensez à ça, à vos enfants. Aujourd'hui, on va voir exactement ce que dans la Genèse 49, le livre de la Genèse 49, on est rendu au avant-dernier chapitre. Gloire à Dieu, on s'est rendu là, on y est presque. La semaine prochaine, c'est le 50, puis on a fini la Genèse. Donc, c'est bon, c'est bien, gloire à Dieu pour ça. Et puis, aujourd'hui, on est rendu dans la Genèse chapitre 49. Et j'aimerais vous inviter à vraiment ouvrir vos Bibles dans le chapitre 49. On va le lire. Genèse 49. L'avant-dernier chapitre de la Genèse. Les bénédictions de Jacob à ses 12 fils. C'est bien? Vous l'avez tous? Donc, Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Assemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices et ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la supériorité, car tu as monté sur la couche de ton père. Tu as alors profané mon lit, en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'ait point part à leur conciliabule. Que ma pensée ne s'unisse pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué un homme. Et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Je les séparerai dans Jacob, je les disséminerai dans Israël. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? Le bâton des commandements ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il nettoie dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon demeurera sur la côte des mers. Il se tiendra sur la côte des navires et ses limites s'étendront du côté de Sidon. Issachar est un âne bien charpenté qui se couche entre ses deux parcs. Il voit que l'endroit où il se repose est bon et que le pays est agréable. Il courbe son épaule sur le fardeau et il s'assujettit à la courvée. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, dont le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton salut, ô Éternel. Gad, une troupe s'attroupera contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera pour la talonner. C'est lui qui s'attroupera pour la talonner. Chez Hazer, la nourriture sera plantureuse. Il fournira les mets exquis d'un roi. Nephtali est une biche en plein élan. Il prononcera des belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèveront au-dessus de la muraille. Et ils l'ont provoqué, ils l'ont tiré. Les archers étaient ses adversaires, mais son arc est demeuré égal à lui-même. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël, par les dieux de ton père qui sera ton secours, avec le Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions du haut du ciel, des bénédictions du fond de l'abîme, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père l'emportent sur les bénédictions de ceux qui m'ont conçu jusqu'à l'extrémité des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince, de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. Puis il leur donna cet ordre. Je vais rejoindre mes ancêtres décédés. Ensevelissez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts, l'Hittite, dans la grotte des champs de Macpéla, près de Mamré, au pays des Canaan. C'est là le champ d'Abraham a acheté à Éphron, l'Hittite, comme propriété funéraire. Là, on a enseveli Abraham et sa femme Sarah, là, on a enseveli Isaac et sa femme Rebecca, et là, j'ai enseveli Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il se remit au lit, il expira et fut réuni à ses ancêtres décédés. C'est quand même assez long comme lecture, 33 versets. C'est une belle fin. On dirait que tout est synchronisé. Hein? Il bénit ses enfants, il se lève, il remonte dans son lit, puis il meurt. C'est tout synchronisé, puis c'est vraiment Dieu qui a pu faire ça, qui a pu permettre ça. Nous avons vu dans le chapitre 48, avec Richard la semaine passée, que Jacob était malade et Joseph lui rend visite. Jacob bénit ses enfants, et c'est là qu'il commence les bénédictions avant de mourir. Suite à cet événement, Jacob appelle ses enfants dans ce chapitre 49 qu'on vient de lire. Jacob bénit ses 12 enfants d'une façon particulière. Et vous avez entendu, c'est très particulier, chaque bénédiction à chaque enfant. Nous lisons dans le verset 28, il est béni chacun d'une bénédiction particulière. Nous allons voir plus en détail ces bénédictions à ces 12 enfants. Bénédictions qui ne sont pas juste pour des enfants et pour ses enfants, sinon pour tous les peuples. Comme nous lisons dans le verset 8 à 12 concernant Judas, il parle de Shiloh, le Messie. Ces bénédictions qui nous concernent aussi à nous, l'Église, son peuple. Donc permettez-moi, mes frères et sœurs, à pouvoir diviser ce chapitre 49 en trois parties qui reflètent vraiment l'intention de Jacob envers ses enfants. Et non seulement l'intention de Jacob vers ses enfants, sinon aussi l'intention de Dieu envers nous. avec nous, l'Église. Quelqu'un a prié tantôt que merci pour ta parole qui nous guide. C'est vraiment en lisant ça qu'on peut aussi tirer des leçons pour nous, en lisant ces paroles-là de Jacob. Là, on voit ces 12 enfants qui vont former bientôt le peuple d'Israël. Et là, on est devant sa parole de Dieu pour lire et apprendre et en tirer des leçons. Donc, Jacob rassemble ses enfants, du verset 1 à 2. De la même façon que Jacob réunit ses enfants pour écouter les bénédictions et même les exhortations, du vu aussi qu'il nous est écoutons les exhortations qu'il nous a laissées dans sa parole. Le psaume 78 explique bien cette façon qu'on doit écouter la parole. On va le lire tantôt. Et deuxième partie, Jacob bénit ses enfants. Du verset 3 à verset 28, il y a 25 versets qu'il dédie à ses enfants. Il bénit ses enfants. Par des paroles, des fois, difficiles à digérer, mais aussi des bonnes paroles d'espoir aussi, ainsi que concernant le Messie. De la même façon, Dieu veut nous bénir en nous laissant sa parole. Toutes les prophéties qu'on connaît par rapport à Jésus, par rapport à son Église, dont l'apôtre Pierre aussi nous exhorte, prêtez attention à cette parole dans 2 Pierre 1, 19. Donc Jacob bénit ses enfants. Et Jacob aussi donne des directives à ses enfants en rapport à sa mort. Du verset 29 à 33, Jacob donne des instructions à ses enfants pour qu'on l'amène son corps en dehors d'Égypte, vers la terre de ses ancêtres, parce qu'il savait qu'il était juste là de passage, dans une terre étrangère. De la même façon, mes frères et sœurs, Dieu veut, il nous laisse des instructions dans sa parole de Dieu pour que nous vivions selon ses commandements, en sachant que nous sommes seulement des passages sur cette terre. Comme le dit Philippiens 3:20, Hébreux 13:14, même l'apôtre Pierre le dit dans un de ses épîtres. Donc trois parties, trois intentions de Jacob. On va aller vers la première. Jacob rassemble ses enfants, versets 1 à 2. Assemblez-vous, leur dit. Assemblez-vous. Après avoir béni les enfants de Joseph, il appelle à tous ses 12 enfants, et incluant Joseph. Je ne sais pas si Manassé, son frère, était là. Je ne sais pas, peut-être oui, mais il appelle ses 12 enfants, incluant Joseph. Avant sa mort, il les appelle pour les bénir. Et dans la culture biblique, et on appelle cette la prière patriarcale, c'est connu, c'était important et on considérait comme partie de l'héritage en fait dans ce temps-ci. Isaac même dans Genèse 27 bénit son fils Jacob. Moïse dans une forme aussi des bénédictions dans le chapitre 33, il bénit le peuple d'Israël. Et nous pouvons voir dans Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, l'importance que Ésaü donne à cette bénédiction, malgré qu'il a vendu son droit d'aînesse. Après, il se répand, il veut encore la bénédiction de son père. Puis on voit dans Hébreux, chapitre 12, 17, vous savez que plus tard, il parle d'Ésaü, quand il a voulu hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'a cherché avec larmes. Il a cherché avec larmes, il a voulu la bénédiction de son père, mais il ne l'a pas eu. Donc, c'est important, cette bénédiction-là, envers ses enfants. Le verset 1 continue, « Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. » Cette expression clé introduit vraiment la prédiction de Jacob. Désigne la délivrance future du peuple élu par Dieu. Et au centre de cette délivrance, il y a un roi, qu'on peut le voir dans la tribu de Juda. Assemblez-vous encore, il leur dit. Écoutez, fils de Jacob. Là, il se dirige à ses fils. Écoutez, fils de Jacob, comme un père se dirige à ses enfants. Écoutez-moi. Et il continue. Écoutez, Israël, votre père. Il appelle maintenant ses enfants Israël, votre père. Plus une relation du peuple de Dieu. Un peu comme les prophètes. C'est se diriger vers le peuple d'Israël. On voit dans Ésaïe un peu cette même forme-là. Écoutez maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Il se dirige vraiment comme le peuple de Dieu. De deux façons, en fait, Jacob. Il y a le chapeau de père, il y a aussi le chapeau du peuple de Dieu. Puis il veut diriger ses bénédictions à ses enfants. Cette intention avec ses enfants, pour qu'ils écoutent ses paroles, c'est la même intention que Dieu veut aussi que nous écoutions sa bénédiction, exhortation, qu'il nous laisse dans sa parole. Et non seulement les écouter, sinon quoi? La transmettre, les mettre en pratique, oui, mais les transmettre aussi à nos enfants. Le psaume 78, ça vaut la peine d'aller le lire, du verset 1 à 7. Psaume 78, s'il vous plaît. C'est un psaume assez long, mais on va juste lire les sept versets, les premiers sept versets. Dit mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par une parole, j'annonce les énigmes des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils pour qu'ils la connaissent. Celle de la génération future. Des fils naîtront, ils se dresseront et le rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu et ils observeront, ses commandements. Prête oreille à mon enseignement, dit le psaume 78. Il y a une exhortation. Rédisant la génération future les louanges de l'Éternel. Il a ordonné à ses pères de faire connaître à leurs fils. Dans quel but? Dans le but qu'ils puissent mettre leur assurance en Dieu. Dans le but qu'ils n'oublient pas les actes de Dieu. Puis aussi qu'ils observent ses commandements. La même intention de Jacob quand il dit, écoutez. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos enfants? Je ne sais pas si on a... Moi-même, je me pose la question... Et je m'exhorte moi-même de passer plus de temps à nos enfants à enseigner la parole de Dieu. Je sais que le mercredi, on a notre temps d'étude biblique. Mais est-ce que dans nos familles, on se réunit, puis on apporte cette parole? Est-ce que nos enfants connaissent la parole de Dieu? Est-ce qu'on partage avec nos enfants la parole? Est-ce que, c'est pas juste pour les parents maintenant, hein? Est-ce que vous, les enfants, est-ce que vous écoutez quand vos pères vous enseignent la parole de Dieu? Est-ce que vous les mettez en pratique? Des fois, je suis fatigué. Il y a un demi petit qui me dit, « Papa, lis-moi une histoire. » Et puis là, je suis fatigué, je ne lis pas. Et après, je me sens très mal. J'aurais dû donc y aller. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça prend quoi? Ça prend peut-être, pour ceux qui ont des petits-enfants, là, ça prend quoi? 10, 15 minutes, une belle histoire, courte. Mais ça reste. Hein? Après, ils ont des questions très intéressantes. Il faut aller chercher, des fois, très loin. Donc, il pose des bonnes questions. Mais il faut leur enseigner. Puis là, dans ces moments-là, Jacob a ce privilège de pouvoir partager avec ses enfants ce que Dieu veut leur dire par la bouche de Jacob. Passons à la deuxième partie. Jacob bénit ses enfants. Du verset 3 à 28, c'est la plus longue partie parce que ça comprend toutes les bénédictions vers ses enfants, vers ses 12 enfants. De façon générale, nous pouvons résumer le titre de cette paragraphe, du 3 à 28. Jacob donne sa bénédiction aux 12 enfants, mais dans la colombe, on peut lire un titre quand même assez qui explique bien la bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils, la bénédiction prophétique. D'autres ont intitulé dans d'autres langues aussi « Le testament de Jacob » envers ses enfants. Ceci est curieux au sujet de la bénédiction finale de Jacob et que ses paroles étaient dirigées non seulement à des enfants, à ses enfants, mais également à leur progéniture après eux. Et en d'autres termes, ces bénédictions sont des mots prophétiques. Jacob annonce l'histoire future à ses fils. Apparemment, sur la base des traits de caractère qu'ils ont dans ce moment, ce fils-là, en utilisant les traits de caractère, il annonce ce qui va venir par la suite. quelques particularités de ces bénédictions. C'est pas, vous voyez, il y a toute une liste de tous les 12 enfants. C'est pas un ordre chronologique. Oui, on peut voir la chronologie des naissances, mais ça garde pas vraiment une ordre chronologique. Et ce qu'on peut juste remarquer ici, que les 6 premiers enfants nommés, c'est un ordre chronologique, un ordre de naissance. C'est les enfants d'Elia, en fait, les 6. Puis les 2 derniers, c'est en ordre aussi, les 2 enfants de Rachel. Entre ces 2 groupes-là, il y a les fils de Léa, de la servante de Léa, la servante de Rachel, les 2 fils de la servante de Léa, et l'autre fils de la servante de Rachel. Donc, on voit tous les 12 enfants ici. C'est sûr que vous avez remarqué que les 2 qui sont le plus, qui on peut voir plus des bénédictions, c'est Judas et Joseph. 5 versets dédiés pour chaque un des bénédictions. Les autres ont eu juste 2 versets ou même 1 verset, mais ce qui se remarque, c'est vraiment Judas, c'est sûr, c'est Judas et Joseph. Puis Benjamin, le dernier verset. Voyons de plus près ces bénédictions-là. Ruben, verset 3. Donc j'imagine que ces 2 enfants étaient là, leur père les appelle, les 2 enfants sont là, ils ne savent pas qu'est-ce que leur père va lui dire. C'est vraiment nouveau pour nous. Nous connaissons cette histoire. Beaucoup de fois, on l'a lu. On connaît même la suite. Qu'est-ce qui s'est passé avec chaque tribu? Mais pour eux, dans ce moment-là, c'était important ce que nos pères vont nous dire. Il va nous bénir. Je pense que Ruben, l'aîné, était là. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'il va me laisser mon père? Je ne sais pas s'il pensait à ça. Mais de quelle façon il va me bénir? Et ça commence bien la bénédiction. Hein? Toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétu comme les eaux. Waouh, là, jusqu'à là, je dis, je serai Ruben, je serai dans la gloire. Je dis, waouh, qu'est-ce qui s'en vient là, c'est ça? Mais là, l'autre phrase, il dit, tu n'auras pas la supériorité. La gravité du péché de Ruben n'avait pas été oubliée. Genèse 35, 22. Il coucha avec Bilha, la concubine de son père. Et en conséquence, quoi? Il perdit le droit d'aînesse. On peut le voir dans le chapitre 48 que Richard a prêché. C'est vraiment les fils de Joseph qui ont eu le droit d'aînesse. Puis on peut le voir plus clairement aussi dans 1 Chronique, il dit dans le chapitre 5, verset 1, « Fils de Ruben, premier-né d'Israël. » Car il était le premier-né, mais parce qu'il avait profané le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Ainsi, Ruben ne fut pas recensé selon son droit d'aînesse, 1 Chronique 5. Hein. Il n'est même pas recensé. Donc là, la conséquence a été dure pour Ruben. Impétueux, dit, comme les eaux, incontrôlable, ça veut dire. Instable, inconstant. Le péché dans la vie des Ruben laisse des conséquences. Par la bouche de Jacob, Dieu rejette Ruben. Par sa bouche, il rejette Ruben. Ce n'est pas un règlement de compte, parce que nous avons vu, quand il y a eu le péché de Ruben, nous lisons que Jacob, il ne dit rien. Il dit, il sait l'affaire, puis il n'y a pas de réaction. OK? Puis, ça reste un mystère, ça. Après, on ne voit pas le développement. Mais c'est juste là qu'on voit vraiment la conséquence du péché des Rubens. En Corinthiens 5 nous parle de ça. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous l'impudicité. Paul en parle de ce genre de péché des Rubens. 2 Pierre 2,14, il définit un peu ce genre de péché. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants des malédictions. Deutéronome 27, 20, plus tard, dans la loi, ça va être écrit, « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il a soulevé la couverture de son père. » Donc, il y a des lourdes conséquences. Et pourtant, Ruben, c'est lui, OK, dans le chapitre là où se trouve Joseph avec ses frères, puis ils veulent le tuer. C'est Ruben qui dit, hey, il faut le délivrer de leurs mains, ne lui ôtons la vie. Ruben lui dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans une citerne, il dit. Mais il faut pas enlever la vie. Il avait le dessein même, il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Il voulait le faire pourtant, Ruben. Mais il ment à son père après, avec ses frères, sur la mort de Joseph. À la fin, il ment. Il aurait pu, comme l'aîné de la famille, aller avec ses frères et dire, non, on va pas mentir à notre père, on va dire la vérité. Puis là, c'est ce qui s'est passé. Et ils l'ont vendu. Non, il a menti aussi. C'est lui aussi, plus tard, Ruben, qui dit à son père, tu feras mourir mes deux fils et je ne te ramène pas Benjamin. Si je ne te ramène pas Benjamin, parce que Joseph voulait que Benjamin vienne en Égypte, remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Ruben dit ça à Jacob. Puis on voit que Jacob, il refuse, il veut pas. Plus tard, c'est Judas qui s'offre. Mais il refuse, il ne veut pas. C'est sûr que ces deux événements arrivent après ses péchés avec Bilba. Est-ce que la réaction de Ruben était parce qu'il voulait gagner des points avec son père? Est-ce qu'il voulait gagner la faveur de son père en remettant son fils, en sauvant son fils Joseph? Il voulait gagner peut-être des points. C'était sa façon de se faire pardonner à cause du péché. Je ne sais pas, mais la Bible n'en dit pas. Ces deux événements arrivent en fait après le péché de Bilba. Aucun juge, ça ce qu'on peut savoir, c'est que aucun juge, prophète ou chef militaire, ni aucun personnage important sort de la tribu de Ruben. Même Moïse pria pour cette tribu pour qu'elle n'y disparaisse pas dans Deutéronome 33:6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Même Moïse prie pour cette tribu-là. Malgré tous ces avertissements conséquents du péché, nous ne voyons pas en Ruben, après ce jour-là, une façon de pouvoir se racheter et vouloir prendre un rôle important dans le peuple de Dieu. On ne voit pas chez Ruben ça. Nous, on peut voir ça parce qu'on connaît toute la révélation de Dieu. Puis on peut voir qu'est-ce qui s'est passé après. Mais malheureusement, on ne voit pas chez Ruben cette attitude. Au contraire, quand les Israélites ont eu le partage de la terre promise, ils ont dit, non, non, on préfère aller des côtés de l'autre rivière du Jordan, là où se trouve la Jordanie maintenant. On voulait aller de l'autre côté. Ils ne pensaient pas à ses enfants, ils pensaient vraiment à leur bétail. Puis là, ils disent, on veut aller avec la tribu des Gad aussi. Donc, nullement on voit quelque chose de repentance chez Ruben. Déborah en parle dans Juges. Il fait des reproches à la tribu de Ruben dans le livre des Juges qu'il n'a pas à vouloir aider dans le combat, démontrant le caractère instable de Ruben. Peut-être des fois il réagit bien, des fois, mais on le voit dans le résultat. Il fait rien, il reste comme il était. Puis on voit le résultat. Il aurait pu faire quelque chose, mais on va voir tantôt la réaction des autres fils. Siméon et Lévi, versets 5 à 7. Siméon et Lévi sont des frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'ait point part à leur complot. Que ma pensée nous unisse par leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont eu un homme. Dans leur caprice, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Vous vous rappelez cet événement qu'ils ont tué? Ils se sont vengés de leur sœur Dina, parce que Sichem l'avait déshonoré. Puis ils ont tué sauvagement, ils ont fait justice eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il les nomme ça. La particularité de cet événement, c'est que c'est deux frères. C'est pour les deux frères les mêmes conséquences. Les mêmes conséquences, c'est pour les deux frères, en fait, qui ont agi de cette façon-là. Après cet événement, en fait, Jacob les réprimant, mais ils se répandent pas. Au contraire, ils se justifient. Alors, Allons voir ce que la Bible dit sur ce péché-là. Il dit, la voix du méchant est en horreur de l'Éternel. À l'Éternel, pardon. Proverbe 15:9. Et Jacques, il dit un peu en plus dans 1:19-20, sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et les femmes, c'est bien, juste la colère de l'homme, non? La colère de l'homme, de nous tous, n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Soyons dit, lent à la colère, lent à la colère. Il faut écouter plus. Le prophète, la prophétie de Jacob fut accomplie à la lettre pour ses deux frères. Au moment de la distribution dans le peuple, dans la terre promise, les Lévites et les Siméonites furent dispersés, ok, et séparés tous les deux. À Siméon, on a attribué des terres dans le territoire de Juda, à l'intérieur de Juda, mais particulier dans le territoire de Juda, ils ont eu des villes un peu désertiques qu'on appelle le désert des Negev. Donc, ils ont eu quelques villes dans Juda. Ils n'ont pas eu un territoire à eux-mêmes. La tribu de Lévi ne reçoit pas non plus un territoire, mais ils ont affecté 48 villes. Ils ont affecté aux Lévites 48 villes dans tout Israël. On peut voir ça dans Josué 21. Mais très tôt, il y a une chose ici importante. Très tôt dans l'histoire du peuple d'Israël, nous pouvons voir ce qui paraît une malédiction pour Lévi s'est converti, tourne vers une bénédiction. Et dans le chapitre 25 des Nombres, on voit cette débauche avec les filles des Moab, vous vous rappelez bien, à cause de Phinéas, un lévite, qui tua Zimri, un siméonite. Et de telle façon, il arrêta la plaie, parce qu'il y avait eu un plaie où il y a eu 24 morts. Il arrêta la plaie à cause de Lévite, il tua le Siméonite qui est resté dans le péché. On voit vraiment que Lévi se tourne vers Dieu. Il tourne sa colère peut-être plus pour faire du mal aux autres, vraiment pour servir Dieu. Mais l'autre continue à pécher et suivit les conséquences. Le moment qui changea vraiment le sort des Lévites était autour du péché du veau d'or. Vous vous rappelez? Là où Moïse a dit dans Exode 32, ceux qui sont avec moi, venez avec moi. Et tous les Lévites sont venus avec lui. Toutes les Lévites. Le résultat de ça, c'est la sanctification des Lévites pour Dieu. Il est mis à part comme le sacerdoce, un privilège pour eux. C'était un privilège pour eux. Ce qu'on croyait une malédiction ou quelque chose de mauvais pour eux, c'est tourné une bénédiction à cause de leur attitude. Ils se sont tournés vers Dieu, à différence des Siméonites, les descendants de Siméon. C'est sûr, ils n'ont pas eu un territoire. La conséquence était là encore, mais ils vivaient du peuple d'Israël. Donc, c'est une bénédiction pour eux, les Lévites. Des Lévites connus qu'on est dans la Bible, c'est Moïse, Samuel, Ézéchiel, Esdras, Malachi. Allons voir maintenant Juda, la bénédiction à Juda, versets 8 à 12. On a chanté aujourd'hui, célébré notre Dieu, on a célébré notre Dieu. Et Juda, le verset 8 à 12, « Juda, c'est toi que tes frères célébreront. » Waouh, ça doit être une bénédiction pour Juda, entendre ça. Il n'avait peut-être aucune idée de ce qui allait se passer, mais Jacob, par sa bouche, parle ce que Dieu veut lui dire. « Juda, c'est toi que tes frères célébreront. Cette fois, je te célèbre, je célébrerai l'Éternel. » Qui a dit ça? C'est sa mère, au moment qu'il est né. « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » Le nom de Juda, c'est Jéhuda, en hébreu, qui veut dire « louange ».« Louange ». C'était de la ligne de Juda aussi forte qu'un jeune lion qui viendrait la prééminence nationale de la royauté. C'est la promesse du roi. Cette promesse-là inclut le roi David, le roi Salomon, et leur dynastie, 640 ans après tout cet événement-là. Et dans le verset 10, le Shiloh, qui veut dire le pacifique, le pacificateur, le Messie, en fait, aussi appelé le lion de la tribu de Juda. on voit cette bénédiction vers Judas. Et puis on peut le voir dans Apocalypse 5:5. Et un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour mourir, pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. On voit que de la tribu de Judas sort le Messie, le Sauveur. Judas fut puissant envers ses frères, à côté de ses frères. Et c'était lui le conducteur qui était au devant quand ils étaient au désert. Chronique parle de Judas. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un conducteur. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. C'est un Chronique qui rend témoignage de cette bénédiction. Le verset 11 et 12 décrivent une prospérité si grande qu'on peut attacher même une âne à une vigne et laisser manger. Et puis l'eau est abondante, le vin est abondant comme l'eau. On peut voir la bénédiction envers Judas. Dans le désert, c'est Judas qui partait toujours le premier. C'était la tribu qui était le plus grand nombre des membres. Et si on voit ça dans le recensement de Moïse, dans le nombre 1 puis le nombre 26 aussi, c'était la plus grande des tribus. Judas croit et s'approprie de la bénédiction de son père. Jacob prophétisa à ses frères que ses frères reconnaîtraient sa position de leader dans la famille. On le voit déjà, Judas, un peu son caractère là. Okay? Quand ils sont autour de son frère Joseph, là, c'est lui qui a l'idée. Il dit, vendons-le aux Israélites. C'est lui qui dit ça. Et mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères, qu'est-ce qu'il dit, la parole? C'est pas Ruben ça, qui parle ici, c'est Judas. Et ses frères l'écoutèrent. Waouh, il y avait déjà certaines influences sur ses frères. En fait, Judas a commencé à montrer ses qualités de leader lorsque ses frères sont allés aussi en Égypte acheter la nourriture. C'est lui qui parlait toujours avec Joseph. Et c'est lui qui a pris la responsabilité de Benjamin aussi. C'est Judas. Lorsqu'il parla avec Joseph, il lui dit, « Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. » On sent déjà cette lourdeur de Judas, cette repentance-là. Permette donc, je t'ai pris à ton serviteur de rester. Waouh, il veut prendre la place de son frère. De rester à la place de mon frère, il dit à Joseph. Je ne veux pas voir l'affliction de mon père. Il est sincère avec Joseph. Le cœur de Judas aussi commence à changer. La repentance, le prix à payer pour les conséquences. Même avant, dans Genèse 38, que Richard a partagé à un moment donné aussi, il est poussé à l'humilité avec l'affaire de la belle-fille de Tamar. On peut voir la bénédiction de cette tribu de Judas. Dans 1 Samuel, on peut lire maintenant, « Ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. » Quand il parle de David. Et David venait de la tribu de Judas. Et qui vient aussi de la tribu de Judas? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, la bénédiction. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Grande bénédiction envers Judas. Zabulon, verset 13, Zabulon demeura sur les côtes des mers. Quoique dans le territoire qu'on voit après, il est enfermé, et il y avait la Via Maris qui empruntait les gens pour faire des commerces avec la mer. On pense que c'est à cause de ça que l'auteur parle de ça. Il viendra à côté des navires. Zabulon, on voit Issachar aussi dans le verset 14. Issachar est un âne bien charpenté qui se couche entre les deux parts. Il était une tribu travailleuse, Issachar, robuste, courageuse, résolue, qui vécut selon le nom de son ancêtre, Issachar. Dan, verset 16, Dan jura son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan, que son nom signifie juger, donna naissance à une tribu agressive et qui jugea la nation, mais il ne fut pas connu à cause de sa réputation morale ni sa fidélité non plus. Il n'était pas connu pour ça, Dan. Gad, attaqué par des pillards, contre-attaque et les poursuit. C'est ça que Jacob dit de Gad. En s'installant à l'autre côté aussi des Jordans, un peu avec la tribu de Ruben, les descendants des Gad s'exposent à des invasions des autres peuples. Ils deviennent des vaillants guerriers aussi. Ils rapportent beaucoup de victoires. Azer, dans le verset 20, le pays Azer donnera abondant récolte. Azer profita de la région côtière, à côté du Carmel, qui fut attribuée. Ses terres agricoles étaient riches et il fournit au palais les délices de la campagne. Donc Azer était connu pour ça. Nephtali est une biche en plein élan. Il prononcera des belles paroles. Nephtali. La vitesse et l'agilité de la biche caractérisent les prouesses militaires de Nephtali. Et Jésus habita dans ces zones-là de Nephtali. Quand Matthieu 4, il dit « Terre des Zébulons et terre des Nephtali, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Nephtali. Il prononcera des belles paroles, peut-être en faisant allusion au Messie. Rendons-nous maintenant à Joseph. Joseph, versets 22 à 26. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ça vous fait penser ça à quoi? Psaume 1, hein? Psaume 1, un arbre fertile. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Les fruits sont bons. Je me rappelle, à côté de la maison de mon oncle, il y avait un arbre de figues qui dépassait le mur. C'était l'arbre du voisin. Là. Puis c'est des figues noires, là. Et mes cousins, c'était des figues frais, là, vraiment, des beaux fruits, là. Puis mes cousins, moi, j'aime pas les figues. Mais c'était bon, juteux. Je peux bien décrire ça, hein, mais j'aime pas les figues. Mais c'était bon. Puis on dit ça de Joseph, c'était comme un arbre qui donne des fruits près d'une source d'eau. Ils l'ont provoqué, ils l'ont tiré, les archers étaient ses adversaires, mais son arc est demeuré égal à lui-même. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. En dépit de toutes les afflictions que Joseph a pu vivre dans sa vie, il n'a jamais oublié Dieu. Est-ce qu'on est témoin de ça? On a étudié la vie de Joseph. Il n'a jamais oublié Dieu. Il savait que Dieu, il connaissait vraiment Dieu. Cette connaissance l'a fait surmonter toutes les adversités. Et Jacob en témoigne de ça. Jacob mentionne le Tout-Puissant, le berger, le rocher. Puis encore une fois, on voit dans la fin de la vie de Jacob qui dit « Le Dieu de ton père, le Dieu de Jacob, il a fait de l'Éternel son Dieu. » Encore une fois, la source, il déclare que la source des bénédictions, ça vient seulement de Dieu. Et puis le verset continue, des bénédictions du haut des cieux, du fond de l'abîme, des mamelles des mamelles du sein maternel, et les bénédictions de ton père, la porte sur les bénédictions. Il y a au moins 5 fois que le mot bénédiction est prononcé pour Joseph. Joseph a pu vivre ces bénédictions-là. On peut le voir dans pas loin, dans le chapitre 50 que Richard va prêcher la semaine prochaine. Joseph habita en Égypte. Lui et sa famille, il vécut 110 ans. 110 ans. Et Joseph vit le fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération. Et le fils de Makir, fils de Manassé, naquir sur ses genoux. Il a été béni, Joseph. Énormément. C'est pour ça que Jacob y en parle. Non seulement Joseph, ses enfants aussi. Le premier-né recevait normalement une double portion. Pour Joseph, le premier-né. Donc, là, le droit d'aîné s'est passé pour Joseph à cause de ses enfants. Donc, Manassé et Éphraïm ont eu chacun une tribu. Les deux tribus ont été prospères. Ils ont formé la tribu et le peuple d'Israël. On ne voit pas un Joseph jaloux, parce qu'on peut voir la bénédiction de Judas. Joseph a été témoin de ça. Mais là, il aurait pu bien penser là-dedans et dire, mais là, c'est lui qui m'a vendu. Puis là, de lui vient le Messie, la bénédiction pour tout le peuple. Ce n'est pas à cause de ça, c'est juste par grâce. On voit la grâce de Dieu, la souveraineté de Dieu. Dieu connaît les cœurs. On voit Ruben qui ne fait rien. On voit Siméon qui reste dans son péché, il ne fait rien. On voit aussi Lévi qui se tourne vers Dieu. On voit Judas qui très tôt commence à se repentir et se tourner vers Dieu. Et Joseph, quoi dire de Joseph? Que Dieu l'a béni parce qu'il croyait en Dieu. Il a mis son espoir en lui. Puis on voit le dernier, Benjamin, le verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. C'était des natures belliqueuses, Benjamin, de la petite tribu de Benjamin. Devint célèbre, puis qui ne connaît pas l'affaire de Gibea? Très, très, comment je peux dire ça? Violente, là où on dépose le corps d'une femme pour les 12 tribus. C'était une tribu quand même assez. C'est bien décrit ici, un loup qui déchire. Là, on voit vraiment que c'est Dieu qui parle à travers de Jacob. Il n'y a plus de préférence là, Jacob, pour ses enfants. Il n'aurait pas dit ça de Benjamin, son petit Benjamin. Pourtant, il le décrit comme un loup qui déchire. Mais c'est là où on voit vraiment que c'est Dieu qui prend le contrôle, puis permet, et par la bouche de Jacob, il puisse prophétiser, puisse bénir ses enfants. Deux hommes sont célèbres, venus de cette tribu Benjamin, c'est qui? Saül, le premier roi d'Israël, et Saul aussi, qui devient l'apôtre Paul. C'est cette tribu de Benjamin. On voit vraiment la grâce de Dieu, hein? La grâce de Dieu, vraiment, la souveraineté de Dieu. Le verset 28, nous finissons par les bénédictions. Ce sont là tous ceux qui formaient les 12 tribus d'Israël. Et c'est de façon que le Père bénit ses enfants d'une façon particulière. Oui, il est béni avec des paroles difficiles à digérer, mais aussi à des bonnes paroles. On les voit avec le Messie. Maintenant, l'exhortation va à nous, comme Église, le peuple de Dieu. Est-ce que nous avons un peu de Ruben en nous? Je ne sais pas, cupidité, instabilité, inconstant dans les voies de Dieu. Est-ce qu'on voit un peu dans nous des Siméons violents? On se voit un peu là-dessus. Ou indifférents à la correction de Dieu? Ou comme un Benjamin des natures belliqueuses? Dieu peut nous aider vraiment, mes frères et sœurs. Il peut m'aider à surmonter et corriger mes erreurs. Comment? En prêtant attention à sa parole. Comme au début de ces messages, je répète ce qui est écrit dans Pierre 1, 19 à 21. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. C'est Pierre qui dit ça. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Car c'est nullement par la volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qui parle de la part de Dieu dans ce chapitre-là? C'est Jacob, par son Saint-Esprit, pour l'Esprit Saint. Il donne toutes ses bénédictions et toutes ses exhortations à ses frères, à ses enfants, pour qu'ils puissent soit les corriger en se tournant vers lui, ou soit peut-être ne rien faire. Puis on voit vraiment la grâce de Dieu, hein? Parce que malgré tout ça, ils forment tous un peuple. Ils forment tous le peuple de Dieu, par sa grâce. Malgré tous ces différends, ils sont le peuple choisi, élu par grâce, par pure grâce et par sa souveraineté, le peuple de Dieu. Jacob donna, on va arriver au dernier point, Jacob donna des directives à ses enfants en rapport à sa mort. Puis il leur donna cet ordre-là. Et là, je vais peut-être courir un peu. Il dit, ensevelissez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts, l'Hittite, dans la grotte du champ de Macpéla, près des Mamré, au pays des Canaan. Je suis en train de lire le 29 à 32. Jusqu'à là, ça aurait été bien, hein? Ça aurait été clair pour les enfants. Non? Mais là, il se répète encore. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Éphron, le Hittite, comme propriété funéraire. Là, on a enseveli Abraham et sa femme Sarah. Là, on a enseveli Isaac et sa femme Rebecca. Et là, j'ai enseveli Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Donc, on dirait que Jacob répète la même chose. Il veut vraiment qu'il soit clair pour ses enfants. Il ne veut pas rester là. Il ne veut pas rester en Égypte. Il répète. C'est comme nous, quand on répète avec nos enfants plusieurs fois les choses, des différentes façons. Parce que mes enfants, des fois, ils disent, « Mais tu m'as déjà dit ça. » Mais des fois, je répète différentes façons. Et des fois, je répète la même chose. Donc, mais Jacob veut vraiment que le message soit passé. Jacob donne des instructions à ses enfants pour qu'on l'amène en dehors d'Égypte, la terre de ses ancêtres. Il savait qu'il était là juste de passage. C'était une terre étrangère. De la même façon, Dieu veut que nous laisse des instructions dans sa parole de Dieu pour que nous vivions selon ses commandements, en sachant que nous sommes seulement des passages sur cette terre. Philippiens 3:20 dit, « Pour nous, notre cité est dans les cieux. » Et là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 13:14, « Car nous n'avons pas ici des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Jacob était convaincu que c'était ça, pas sa place. Et nous aussi, nous sommes convaincus que nous sommes des passages sur cette terre. Verset 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il se remit au lit. Il expira et fut réuni avec ses ancêtres décédés. Il meurt en paix. J'aimerais bien vraiment mourir comme ça en paix. Juste me lever. Me coucher et c'est fini. Waouh, c'est une belle mort ça. Et tout ça par la grâce de Dieu. Jacob a fait de Dieu son Dieu, de l'Éternel son Dieu. Il était convaincu où il allait après la mort. Jacob était sûr, il n'avait aucun doute. J'ai pas oublié un verset, le verset 18. Qui se trouve en tout milieu de cette bénédiction. Je n'ai pas oublié ce verset-là, mais je voulais laisser pour la fin. Le verset 18 dit, « J'espère en ton salut, ô Éternel. » Au milieu de nulle part, ce verset sort. « J'espère en ton salut, ô Éternel. » Pendant toutes les bénédictions, il est sûr. Vous savez, le mot, c'est la première fois dans l'Ancien Testament qu'on prononce ces mots-là, Joshua, je le prononce mal en hébreu. Richard va me corriger après. Joshua, salut, délivrance. C'est la première fois qu'on. En fait, on prononce le nom de Jésus, le Sauveur. J'espère en ton salut, ô Éternel. Jacob était sûr où est-ce qu'il allait. Maintenant, vous êtes sûr où vous allez aller après la mort? Vous allez aller où? Avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a ici parmi nous qui ne sait pas? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir la vie éternelle après la mort? Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas ici, qui n'est pas sûr d'avoir cette vie éternelle. Cette vie éternelle est gratuite, c'est un don de Dieu. Éphésiens 2:8 à 9 dit, car par grâce, la même grâce qu'on voit dans ces enfants-là, vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, pas par les œuvres pour que personne ne se glorifie. C'est un don gratuit de Dieu. On peut avoir cette vie éternelle, l'assurance d'avoir cette vie éternelle si on se repent. Vous avez vu, les gens ont changé, se sont tournés vers Dieu à cause de leur péché qui le séparait de Dieu. Ils se sont tournés vers Dieu. Nous aussi, si vous n'avez pas cette assurance-là, vous pouvez l'avoir en vous tournant vers Dieu, en demandant pardon pour vos péchés. C'est Jésus, le Messie qui est mort pour ça. Mais ne partez pas sans nous parler peut-être, parler à quelqu'un, un chrétien ici, pour que vous ayez l'assurance d'avoir cette vie éternelle. Que Dieu nous accorde sa grâce pour marcher selon sa volonté et guidé par sa parole. J'aimerais juste lire le chapitre 1, 2 à 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen.